C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, nous allons voyager dans le temps sur un air d'Offenbach à la découverte d'un homme méconnu. La tempête fait rage ce 23 janvier 1853 et tous les départs ont été annulés depuis la gare maritime du Havre. Les transatlantiques restent à quai et il en va de même pour la traversée de cette passagère vers Southampton. Elle a été contrainte de prendre une chambre dans une auberge du port et y a mal dormi tant elle est excitée par la mission qu'il lui a confiée. Il est urgent qu'elle gagne Londres pour mettre fin à un chantage pouvant ruiner la réputation de l'homme de sa vie. Attendant que veuille bien l'autoriser à embarquer, elle rêvasse en revisitant le passé. Elle est née il y a 30 ans de cela. Son nom est Harriet, fille d'un bottier pour dames de Brighton. À 15 ans, Elizabeth Ann Harriet rêvait de théâtre et devant l'opposition farouche de ses parents, elle prit la fuite avec le fils d'un marchand de chevaux fortuné. Si elle n'éblouit pas les Londoniens avec ses qualités plutôt médiocres sur les planches, en revanche, la splendeur de ses équipages et de ses bijoux firent leur petit effet. Seule ombre au tableau, son amant ne se décidait pas à l'épouser et multiplier les infidélités. Âgée d'à peine 17 ans, elle vivait somptueusement sous le nom d'Harriet Howard, orpheline de père et mère. La bonne fortune lui fit alors rencontrer un major aux Life Guards, mal marié à une souffreteuse. Âgée de 32 ans, il lui ouvrit son cœur et sa bourse généreuse. Notre aventurière possédait désormais une belle résidence à St. John's Wood, et une fortune en placement gérée par des personnes de confiance. Il lui fit un fils, que pour la bienséance, elle présenta comme son petit frère. La vie mondaine de Mrs. Harriet battait son plein lorsqu'elle fit la connaissance de l'amour de sa vie dans le salon des Blessington. Elle avait 23 ans à cette époque, et sa beauté était de notoriété publique, une tête de camée antique sur un corps superbe, proclamée l'un de ses innombrables admirateurs. L'objet de la fascination de notre égérie londonienne avait 38 ans et en paraissait plus. Son physique n'en faisait pas un Apollon. Un grand buste faisant illusion lorsqu'il se présentait à cheval, des jambes trop courtes qui le contraignaient à trottiner de façon ridicule, un visage marqué par une vie de débauché, des bajoux ballottant plus que nécessaire, des yeux cernés, un gros nez surplombant une moustache jaunie par les cigarettes, bref, un véritable remède contre l'amour. Pour ajouter une dernière touche au tableau, cet homme à l'accent allemand prononcé n'avait pas un sou vaillant. Toutefois, il bénéficiait d'un prestige irrésistible aux yeux d'une Anglaise admiratrice de Napoléon. L'individu avait passé sa tendre enfance sur les genoux de l'empereur. L'évocation de sa vie passée regorgeait d'anecdotes pas toutes reluisantes, mais si pittoresques. Ce soir-là, il avait entrepris de les lui conter avec brio. Elisabeth découvrit qu'elle avait affaire à un aventurier mais aussi à un véritable érotomane qui se déniaisa à 13 ans, entama une carrière de fornicateur avec des bonnes et des bergères, avant de s'intéresser à la gent féminine au sein des familles bourgeoises, voisines du château suisse d'Arenenberg. Les grandes dames titrées ne perdaient rien pour attendre. Car ce neveu de Napoléon, fils de Louis Bonaparte et de Hortense de Beauharnais, elle-même fille de Joséphine et d'Alexandre de Beauharnais, avait des ascendances princières, ses parents régnant sur la Hollande. Son grand-père, Alexandre, avait été guillotiné en 1794 et sa grand-mère Joséphine avait fait de la prison avant de rencontrer le futur empereur. La mère du héros d'Harriet s'était trouvée mariée de force à Alexandre, devenant ainsi la belle-fille de Napoléon. Et officiellement, son idole, Louis-Napoléon Bonaparte, était né de leurs amours, même si, pour les langues acérées, il avait en fait été conçu à Cotteret en l'absence d'Alexandre lors d'un séjour pyrénéen de sa mère. En guise de géniteur supposé, on avait le choix entre un amiral hollandais, un écuyer, batave lui aussi, et un comte, futur duc et par ailleurs industriel. Harriet s'était donc peut-être énamourée d'un bâtard. Qu'il soit ou non légitime, son prince courait le Guilledoux plus souvent qu'à son tour. On le vit à Florence, bastonné d'importance par un comte et ses valets, pour avoir tenté de séduire son épouse déguisée en fleuriste, affublée de fausses nattes, d'une robe et d'une perruque. Les mauvaises langues, encore elles, affirme que pour réparer l'outrage fait à sa personne, l'intrigant provoqua le comte en duel en escomptant un refus et que devant l'acceptation de la rencontre, il prit la fuite comme un lâche. Prenant à nouveau la poudre d'escampette avec sa mère Hortense pour avoir comploté avec les Carbonari, mère et fils se présentèrent à Paris auprès de Louis-Philippe, qui ne tarda pas à leur demander de quitter la France et on les trouva réfugiés à Londres. Puis, retour à Arenberg où Louis-Napoléon suivit la formation d'artilleur. Là, entre deux proies culbutées, il s'amouracha de la princesse Mathilde, mais l'union des deux tourtereaux exigeait la bénédiction du roi de Württemberg et on prévit de les marier le 15 août pour la Saint-Napoléon.
On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes.
Wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming each night of his charms that won't get you into his arms. So if you love him and show him that you care. Show him that you care just for him and do the things he likes to do. Wear your hair just for him, 'cause you won't get in thinking and praying, wishing and hoping, 'cause wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming, his kisses will start that won't get you into his heart. So if you're thinking of heartbreak, true love is, all you gotta do is hold him and kiss him and squeeze him and love him. Yeah, just do it, and after you do, you will be. Kisses will start that won't get you into his heart. So if you're thinking of heartbreak, true love is, all you gotta do is hold him and kiss him and squeeze him and love him. Yeah, just do it, and after you do, you will be his.
C'est alors que Louis-Napoléon entreprit d'organiser un coup d'État à Strasbourg, puis de marcher sur Paris avec l'armée insurgée. Pour circonvenir un colonel suspecté trop loyal au régime, les conjurés recourent à une cantatrice de 1m80 qui pratiquait le tir et l'escrime et avait chassé le tigre aux Indes, une certaine Madame Gordon, épouse de Sir Gordon Archer, qui commença par quasiment violer Louis-Napoléon étouffé sous ses jupons et ses seins monstrueux, avant de proposer sa vigoureuse coopération au projet qui proposait de soulever les 12 000 hommes de Strasbourg, d'en récupérer les 100 canons, puis d'y adjoindre d'autres garnisons, afin de se présenter en nombre à Paris, qui tomberait en 5 jours. Madame Gordon accepta de séduire le colonel légaliste, et ce dernier, subjugué, lui prit un appartement à Strasbourg devant une caserne. Louis-Napoléon se rapprocha du colonel, lui expliqua le projet, et décida de correspondre sous un nom d'emprunt, celui de Louise Werner. Le coup d'État était prêt pour le 30 octobre. Au départ, tout se passa à merveille, et notre conspirateur fit un discours devant des artilleurs subjugués, puis on se dirigea vers la demeure du général pour le gagner à la cause, de gré ou de force. Mais ce dernier, cueilli en vêtements de nuit, et prétextant devoir s'habiller, s'enfuit, et lorsque les conjurés se mirent à la poursuite de l'homme, ils furent entourés par les soldats d'un régiment que le général avait ameuté, et le prince fut transféré à Paris, où le roi lui fit remettre 15 000 francs or plus un billet pour une traversée de l'Atlantique en aller simple pour New York, à bord de la frégate Andromède. Pendant ce temps, la cour d'assises de Strasbourg a quitté tous les conjurés, colonels et cantatrices compris. La seule conséquence néfaste pour Louis-Napoléon fut la perte de la main de la princesse Mathilde qu'on ne pouvait décemment accorder à un conspirateur. Comment allait-il occuper ses jours à New York ? Les méchantes langues prétendent que Louis fréquenta les bordels et organisa des parties fines dans un appartement scandalisant par ses exigences même des professionnels aguerris. Il serait même devenu le maquereau d'une prostituée et, suite à une bagarre, fut, à ce que l'on prétend, emprisonné et dut son acquittement à un avocat dont il oublia de régler les honoraires. Ce cher Louis, parfois si distrait, alors qu'il se trouvait à bout de ressources, et chassé de 3 lupanards de par son comportement, il reçut des nouvelles alarmantes de l'état de santé de sa mère, la reine Hortense, qui s'éteignit peu de temps après l'arrivée du prince en Allemagne. Cette disparition l'affecta. Mais ce qui le contraria encore plus fut d'apprendre qu'il avait un demi-frère, né d'une incartade d'Hortense avec un comte, bâtard lui-même de Talleyrand. Ce parent inattendu menait une vie de dandy à Paris, après s'être conduit en héros lors de la campagne d'Algérie. On le connaissait sous le nom de duc de Morny. Louis-Napoléon était revenu à Londres, ce qui rassura Louis-Philippe, lequel ignorait que le prince préparait déjà un nouveau coup d'État. Harriet ne lui avait point encore été présentée, mais il allait par la suite lui conter ses aventures fort excitantes. En juillet 1840, un capitaine de cargo se vit proposer d'embarquer une 60aine de personnes pour une destination non précisée mais qui pouvait être Hambourg. Une exigence supplémentaire avait été formulée, l'identité des voyageurs, leur provenance, leur destination, qui pouvait d'ailleurs être modifiée, tout cela était secret. En revanche, le capitaine pouvait fixer son prix et l'affaire fut conclue. Et le jour J, à savoir le 5 août, la ville d'Édimbourg, le nom du bateau, largua les amarres après avoir pris à son bord ses originaux, certains bien habillés, d'autres en quasi-haillons, accompagné de ballots de vivres, d'une calèche, d'un gros paquet de prospectus et d'un aigle déplumé mis en cage. Le cargo avait quitté les docks de Londres, mais à l'embouchure de la Tamise, il dut stopper jusqu'à ce qu'un homme venu en canot grimpa à bord, un petit homme à l'aspect insignifiant, mais qui reçut des marques de respect de ses acolytes. Soudain, le capitaine se vit demander d'obliquer vers Vimereux, à proximité de Boulogne. Quelques heures plus tard, les passagers se déshabillaient sur le pont pour revêtir des uniformes, avant de mettre les canots à la mer sur ordre du petit homme travesti en colonel d'artillerie. Prétextant une excursion à terre, ils accomplirent 4 allers-retours pour transporter leur équipement et leurs bagages, fusils compris. L'idée foutraque de la petite bande était de s'emparer de Boulogne, puis de Paris, dans la foulée. La tentative à court, lorsqu'un officier de la caserne convoitée fit sonner le clairon. Les conspirateurs se ruèrent sur la plage pour y constater que les canots avaient disparu, ils tentèrent de gagner le cargo à la nage, les balles sifflèrent, il y eut un tué et quelques blessés, et la troupe se saisit des nageurs. Le grelottant prince Louis devait le 30 septembre se voir condamné à un emprisonnement perpétuel au fort de Ham, avec pour seule compagnie son valet Charles Tellin, son médecin Charles Conneau et un co-détenu, le général de Montholon. Ce dernier était l'homme qui avait fermé les yeux de Napoléon Ier à Sainte-Hélène. Il s'était aussi singularisé par des retournements de veste, des détournements de fonds et des dettes qu'il avait fait fuir à Londres avant de rejoindre l'équipée folle dingue de Boulogne et de prendre 6 ans d'incarcération dans la forteresse. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, les portes du pénitencier vont se refermer sur Louis-Napoléon. Son avenir est-il derrière lui ? Réponse lors de notre prochaine rencontre.